toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Il y a des métiers que l'on comprend immédiatement, couturier, designer, artisan, photographe, etc. Ils cultivent notre imaginaire de la mode et du luxe et on peut se les représenter de façon assez aisée. Mais il y a également des métiers un peu plus mystérieux. Des métiers qui consistent à observer le monde, sentir les glissements culturels, écouter les désirs émergents, détecter les signaux faibles, avant même que les marques elles-mêmes ne comprennent vraiment ce qui leur arrive. Et honnêtement, dans la période actuelle, ce n'est pas du luxe. Car le secteur semble aujourd'hui traversé par une étrange contradiction. Jamais les maisons n'ont été aussi puissantes, aussi visibles, aussi mondiales. Et pourtant, rarement le luxe n'a semblé aussi incertain sur ce qu'il doit produire, raconter, désirer ou défendre. Le consommateur change, les générations bougent, les injonctions écologiques s'accumulent, les images défilent à une vitesse absurde et l'IA recompose les imaginaires. Et pendant ce temps, les marques tentent tant bien que mal de rester désirables dans un monde saturé. Alors comment lire tout ça et comment l'interpréter ? Comment comprendre son époque quand tout change en permanence ? Et surtout, qu'est-ce qui, dans le luxe, reste encore profondément essentiel ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-François Lelouette, président de Nelly Rodi, entre autres, mais aujourd'hui je le reçois sous cette casquette, un cabinet historique de prospective et de stratégie créative. Avec lui, nous allons parler du futur du luxe, bien sûr, mais aussi du présent et de comment le saisir, ce qui est encore plus compliqué. Alors installez-vous confortablement, mais avant de commencer à vous embarquer dans cette discussion, n'hésitez pas à aller rejoindre l'Instagram de Décousu, Décousu Podcast, de commenter l'épisode sur votre application de podcast et de le partager autour de vous. C'est une formidable aide et ça ne vous coûte rien. Allez, maintenant, je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Pierre-François Lelouette pour justement discuter de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur, comment est-ce qu'on peut l'analyser et comment est-ce qu'on en fait un métier de cette analyse. Donc pour commencer, comment allez-vous ?
Je vais très bien, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravi de cette discussion.
Eh bien écoutez-moi de même, on va pouvoir commencer d'emblée puisque ce qui va être intéressant d'abord pour comprendre un petit peu qui vous êtes, votre parcours et votre positionnement. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours et ce qui vous a amené aujourd'hui à Nelly Rodi et qu'est-ce qu'est Nelly Rodi tout simplement finalement ?
Alors Nelly Rodi est un bureau dont la mission est d'imaginer, de façonner l'avenir des industries créatives. C'est un bureau qui est né comme un bureau de style il y a une quarantaine d'années, qui a été fondé par ma mère, Nelly Rodi, de son jeune fille, qui était styliste et qui à l'époque travaillait beaucoup sur les formes, les couleurs, les matières, les tendances de formes, couleurs, matières, avec une vision très prospective. C'est toujours une partie de notre métier, mais j'ai fait évoluer beaucoup le travail de Nelly Rodi aujourd'hui en tant qu'agence, pour travailler beaucoup plus sur la stratégie des marques, la stratégie des secteurs d'activité, le positionnement des marques. Et donc aujourd'hui, on fait beaucoup d'études sur la consommation, sur les insights, pour pouvoir justement inspirer des stratégies d'entreprise. Nous travaillons à Paris, avec une trentaine de collaborateurs, mais aussi dans une dizaine d'autres pays. Et quant à mon parcours personnel, avant de rentrer dans cette entreprise familiale, donc j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal. Je sortais d'école de commerce, de l'ESCP et de l'Institut français de la mode, dont je suis aujourd'hui administrateur et vice-président d'IFM Alumni. Et j'ai toujours eu un profil très généraliste. Donc j'ai fait des études de commerce, certes, mais aussi d'histoire. J'ai été cagneux. Enfin, j'ai une certaine transversalité des choses, ça m'a toujours beaucoup intéressé et c'est ce que je retrouve aujourd'hui chez Nelly Rodi. Donc ma vie principale c'est ça, c'est d'être chef de cette petite entreprise fort sympathique. J'ai une double vie comme co-président de l'Union des industries de la mode et de l'habillement. Donc je représente aussi toutes les marques d'habillement françaises, toutes les marques premium, les marques indépendantes. Et en ce moment c'est un moment un peu particulier de notre histoire de la mode pour ces marques. Donc je suis très fier de les représenter.
Et bien justement là où ça va être très intéressant, c'est que précisément ce moment particulier, on a on va dire, l'opportunité aujourd'hui de pouvoir le saisir et le comprendre, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Et donc, pour comprendre un peu plus ce que veut dire cet aspect conseil stratégique, puisque finalement, bureau de style, on a tous un petit peu l'image que ça peut avoir, mais c'est vrai que Nehiro 10, c'est aussi une espèce de... c'est plus tentaculaire que ça, en fait. Il y a vraiment une approche aussi de vision long terme, de prospective. Donc, en quoi consiste votre métier par rapport à ce que peut faire Nehiro 10 et qu'est-ce que veut dire finalement accompagner vraiment une marque ?
Alors, le métier historique d'Nehiro 10, c'est-à-dire les tendances, les cahiers de tendances, ça représente aujourd'hui 25% de notre activité. Donc il y a toujours beaucoup de maisons qui, dans le monde entier, plusieurs centaines, cherchent à trouver de l'inspiration chaque saison pour pouvoir commencer leur réflexion sur leur nouvelle collection dans la mode, dans la beauté, dans la décoration, etc. Donc ça, c'est la partie historique de notre métier qui, effectivement, est bien connue. Je crois, depuis le temps que ça dure. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est que pour environ 150 ou 200 maisons chaque année, nous réalisons des missions sur mesure qui sont dédiées à la meilleure compréhension de leurs clients et de leur stratégie de marque. Donc ça peut être très divers. Ça peut être une marque de linge de maison qui nous demande de réaliser sa plateforme de marque. Ça peut être une maison de luxe qui nous dit, ben voilà, je voudrais m'intéresser à la stratégie des VIC, les Very Important Clients, et je voudrais revoir ma stratégie, donc comment les cibler, comment les segmenter, quelle expérience leur proposer. Ça peut être une marque de cosmétiques qui s'adresse à une cible et qui nous dit ben, « je voudrais rajeunir ma cible, alors comment fonctionne la Gen Z aujourd'hui et la Gen Alpha demain ?» Ça peut être une marque de parfum qui se dit ben, « je fais du mainstream aujourd'hui, mais je voudrais monter en gamme et développer des parfums de niche. Comment je peux faire? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour monter en gamme de cette manière-là? » Donc, on a plein d'opportunités qui sont toujours liées à la compréhension des clients, à la compréhension des marques. Donc, on va développer des plateformes de marque, des plateformes ensuite de stratégie créative pour bien comprendre quel est le positionnement créatif des marques, avant d'inspirer également des actions de renouvellement, d'animation de ces marques qui ont besoin de trouver des collabs, de faire des événements, etc. Et on travaille aussi beaucoup avec elles à la définition de tout ce qui vient les animer. Je ne sais pas si je suis...
Oui, oui, c'est clair sur l'objectif final. Là où ça va m'intéresser maintenant, c'est de comprendre comment ça se traduit d'un point de vue concret. Parce que, par exemple, évidemment, lorsqu'on fait une stratégie, etc., il y a évidemment le fait de sentir l'air du temps, mais il y a aussi des datas. Donc, en termes de consommation, comment vous allez chercher l'information, la data auprès des clients, pour analyser après comment orienter ? Puisqu'on peut se dire, bon, il y a des choses qui se passent, etc., on voit bien ce qui est plus acheté, on voit bien qu'il y a des marques qui ferment. Mais concrètement, il y a aussi, j'imagine peut-être que les marques vous fournissent des informations aux consommateurs. Est-ce que vous faites des enquêtes ? Comment ça se passe pour vraiment avoir des datas sur le rapport à la consommation ?
C'est toute cette partie de décryptage de la consommation qui est très intéressante. Et effectivement, pour pouvoir y arriver, on fait de nombreux types d'études différentes. Donc on fait des études quantitatives, on fait des études qualitatives, donc on va interroger des consommateurs pour... déterminer des insights avec eux. On fait du social listening beaucoup. Que disent les clients de ces maisons ou ces cibles-là sur les réseaux sociaux des marques avec lesquelles nous travaillons ou des produits qu'ils souhaitent acheter. On fait beaucoup d'interviews de VIC et des interviews d'experts aussi des secteurs d'activité pour pouvoir tirer les informations les plus pertinentes. Donc on a comme ça tout un panorama d'outils, de différents types d'études, avec des méthodologies assez classiques que l'on connaît, mais aujourd'hui, de nouveaux outils alimentés par de l'intelligence artificielle nous permettent aussi d'organiser, par exemple, des études qualitatives de manière simultanée avec des chatbots extrêmement puissants et personnalisés dans une dizaine de pays en même temps. Donc, on n'a plus besoin de mettre en place des focus groups dans 10 pays différemment. Voilà. Donc, il y a plein de nouveaux outils qui existent. On peut aussi, on regarde beaucoup ce que les gens cherchent sur les différentes plateformes. Donc, on a des outils auxquels nous sommes abonnés qui nous permettent de déterminer ce que le search, quelles sont les tendances qui émergent, qu'est-ce que les gens cherchent plus en ce moment plutôt que précédemment sur Google, mais sur TikTok et sur Instagram et sur plein d'autres choses, et sur tous les réseaux locaux. Donc on a comme ça un panorama, une variété, un éventail de solutions pour pouvoir tirer des informations les plus pertinentes qui sont extrêmement importantes. Mais ça ne suffit jamais. C'est-à-dire que les insights, c'est toujours la base de notre métier. Il y a tout un travail sur les méga-trends qui est fait en parallèle parmi nos équipes pour comprendre quelles sont les très grandes tendances de fond, les tendances démographiques, etc. Il y a aussi un autre travail qui est fait pour anticiper les événements majeurs des années à venir qui vont driver la consommation de certains types de produits ou d'expériences. Par exemple, il y a une année de Jeux Olympiques qui s'annonce, on sait que ça va être une année où la surconsommation de produits de sport aura lieu. Quand il y a des événements mondiaux que l'on peut anticiper ou des zones géographiques dont on sait qu'elles vont être particulièrement mises en avant parce qu'il y a des anniversaires, etc. Tout ça alimente beaucoup les réflexions de Nelly Rodi et le cadre général que l'on peut donner. Donc, un cadre avec des méga-trends, un cadre avec des événements qu'on peut anticiper, un cadre avec des insights qui viennent de différents types d'études dont je vous ai parlé. Et puis, il y a en plus toute l'expérience des équipes de Nelly Rodi qui, à partir de ce qu'elles constatent aujourd'hui, savent, parce que ça fait 40 ans que Nelly Rodi existe, que d'un point A, on peut aller à un point B. Donc, il y a des trajectoires qui peuvent se mettre en place. Et il y a des petites graines qui ont été détectées, des signes avant-coureurs à Tokyo, à Séoul, à Shanghai ou à Los Angeles, qui font qu'il y a peut-être des mouvements de fond qui sont en train d'émerger aussi. Donc, il y a une observation des marchés au-delà des dynamiques des consommateurs, mais vraiment de ce qui émerge, des business models, des marques émergentes, des nouveaux concepts de retail, de produits d'expérience qui sont aussi extrêmement intéressants. Et c'est la magie de Nelly Rodi de se baser, de détecter, de décrypter l'ensemble de ces mouvements de marché et de consommation et ensuite de proposer des scénarios à nos clients pour pouvoir définir des stratégies.
Oui, alors, je pourrais parler pour comprendre votre métier pendant des heures, mais là, j'ai envie justement qu'on fasse un peu un exercice justement pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que on est vraiment face à un changement profond de paradigme. Là, on n'est pas uniquement sur des nouvelles tendances qui émergent, etc. C'est qu'il y a vraiment une redéfinition complète de ce que veut dire le luxe, de ce que veut dire la qualité, de ce qu'attendent les clients, etc. Et justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit peu cette notion de coq sans tête qui s'affole un petit peu. On ne sait pas forcément où aller, comment aller. Et certains pourraient être tentés de, entre guillemets, retourner sur des acquis en se disant « bon, ça a toujours marché, on va retourner sur les acquis, on ne va pas innover ». Sauf que le problème, c'est que les acquis nous ont amenés là où on est. Et donc, de facto, que ce soit les dimensions géopolitiques, les dimensions numériques, évidemment, l'IA est un sujet central, que ce soit également la crise de confiance, la gridflation qui a vraiment explosé ces dernières années, tout, en fait, doit être un petit peu re-questionné. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant de pouvoir s'adresser à un acteur comme vous. Et donc, justement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez analyser la situation ou le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Est-ce que, selon vous, c'est vraiment une phase de rupture ou est-ce que c'est une transition ? C'est-à-dire, finalement, si on devait caractériser un petit peu la crise conjoncturelle dans laquelle on est aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, vous ?
J'ai l'impression que la crise n'est pas du tout uniforme. Donc, premier point. Et la crise ne concerne pas tous les secteurs des industries créatives non plus. Donc, et elle ne concerne pas de la même manière non plus tous les pays. Donc, on a le sentiment, parce qu'il y a une croissance qui ralentit, etc., dans certains grands groupes de luxe en particulier, et qu'on est abreuvé de l'effondrement, malheureusement, d'un certain nombre d'enseignes chaque semaine dans certains pays, que la situation est absolument catastrophique. Or, c'est pas le cas. Donc, certes, on a un marché qui baisse, c'est vrai, et ça fait longtemps qu'il baisse, le marché de la mode, en tous les cas, de l'habillement en France, mais il augmente dans d'autres pays, Et puis, quand l'habillement baisse, la joaillerie se développe.
Le parfum aussi, oui.
Le parfum de niche se développe considérablement. Le skincare, avec tous ces sujets de longévité, a également de beaux jours devant lui. Certains marchés vont mieux que d'autres. L'Asie du Sud-Est, par exemple, performe extrêmement bien. Il y a de nouveaux Eldorado qui apparaissent en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, pour les marques de luxe qui sont extrêmement intéressantes. Donc, il n'y a pas du tout de situation uniforme. Toutes les marques, certaines souffrent, d'autres vont extrêmement bien, parce qu'elles ont fait pour certaines leur révolution et qu'elles ont réussi à accueillir de nouveaux consommateurs, ou en tous les cas, en séduire de nouveaux. Donc, on voit bien que derrière ce mot de crise, c'est pas la crise pour tout le monde et c'est pas la même crise pour tout le monde.
Moi, c'est pour ça que moi, je parlerais plutôt de transition. J'ai l'impression qu'il y a un peu un rebattement des cartes. Mais est-ce que vous sentez finalement quand même qu'on arrive aussi dans une phase qui s'est essoufflée ? Alors, je pense forcément... Parce qu'on est dans les années 2000-2010, c'est-à-dire cette espèce d'explosion des réseaux sociaux, d'hyper-visualisation, aussi des marques qui étaient beaucoup portées selon simplement la signature, les logos, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé ces derniers temps du quiet luxury. On a vu là la couleur de l'année, etc. C'était une espèce de blanc crème, voilà. On va vers finalement quelque chose de plus rassurant, tout ça. Est-ce qu'on peut dire aussi, en voyant Mathieu Blasi par exemple chez Chanel, qu'on est passé d'un luxe un peu de l'ostentation, de l'excentricité, de l'amusement, de la monstration réseau socialisable, par exemple comme un Jacquemus qui est une marque proprement image, a été un peu le symbole de tout ça, à aujourd'hui quelque chose qui va être plus dans l'intimiste, dans l'intime. On parlait du parfum. L'épisode qui est sorti la semaine dernière sur le parfum parlait justement de cette redisposition à avoir une consommation qui soit non seulement intime, mais pas partageable sur les réseaux sociaux.
Je ne crois pas vraiment. Je pense qu'on est en train déjà de passer à une phase différente. Pour reprendre l'exemple du parfum, on n'a jamais autant parlé de layering, par exemple. Et le succès des grands parfums de niche, il se fait sur TikTok. Donc, on voit bien qu'il y a cette discussion sur le parfum, elle continue de s'amplifier considérablement. Les consommateurs achètent différents parfums de la jeune génération, les mélangent, en parlent beaucoup. Et on est très loin de la conversation feutrée qu'on essaye de nous faire avaler. De la même manière, on a rarement vu depuis longtemps autant de couleurs dans les derniers défilés, y compris chez les designers qui ont repris en main un certain nombre de maisons. On voit que le rouge, par exemple, est partout dans toutes les collections, mais ce n'est pas la seule couleur, alors qu'effectivement, on a connu une phase très quiet avec le développement de neutre et la disparition des couleurs dans pas mal de magasins. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est passé à une phase nouvelle, et c'est plutôt une bonne nouvelle, justement, que de savoir que la mode, elle a toujours ses coups de balancier, et quand on va trop loin dans le quiet, on peut être assuré que quelques mois après, on va revenir à une expression extrêmement créative, et je pense qu'il faut parier sur cette créativité nouvelle, et que une partie du ralentissement de la consommation des produits de luxe et de mode en général dans les pays occidentaux va être très contredite par l'arrivée de nouvelles expressions créatives très fortes qui vont permettre de redonner, relancer le désir de consommation.
Mais alors justement, il y a un objet réflexif qui moi m'occupe énormément, c'est le constat qu'il y a quand même une crise économique qui se prépare. Donc là, indépendamment du luxe, je parle à l'échelle de la société de façon générale, et c'est vrai qu'il y a eu... Il y a une grosse partie du marché du luxe qui se constitue aussi sur des clients aspirationnels. Cette clientèle-là, elle s'essouffle parce qu'elle va aussi moins acheter, moins consommer. On a eu beaucoup d'articles qui sont sortis récemment disant que le luxe avait perdu plusieurs millions d'acheteurs et de consommateurs aspirationnels. Donc, est-ce qu'il y a aussi peut-être une nécessité pour les marques de repenser aussi le profit de leurs consommateurs ? C'est-à-dire pas uniquement en termes, là, comme je le disais, de niveau social, mais aussi en termes de localisation. C'est-à-dire, par exemple, aller toucher d'autres marchés. Je faisais récemment une interview sur le marché indien. Est-ce qu'il y a, selon vous aussi, une reconfiguration de qui on va toucher après cette, on va dire, peut-être une paupérisation en cours de la classe moyenne qu'on peut voir?
Alors, la croissance des maisons de luxe, elle s'est faite ces dernières années beaucoup par l'augmentation des prix et pas par l'élargissement de la clientèle. Donc, effectivement, le fait que les prix n'aient cessé d'augmenter fait qu'à un moment donné, une partie de la clientèle aspirationnelle ne peut plus s'offrir les produits en question. Et qu'ils sont donc partis de cet univers de consommation du luxe. Suivant les cabinets, on estime à 60 à 70 millions de consommateurs qui auraient cessé d'acheter des produits de luxe. En parallèle, les chiffres du marché ne sont pas du tout à la hauteur de cette disparition. Donc on voit bien que le chiffre d'affaires, il a été fait ailleurs et par d'autres types de consommateurs. Et effectivement, il a été fait beaucoup par les VIC, par les Very Important Clients, 2-3% en général des clients, qui représentent 30 à 40% suivant les maisons du chiffre d'affaires. Donc les meilleurs clients pour lesquels l'argent n'est pas un problème. Les cours de bourse ont rarement été aussi hauts, ça continue d'aller extrêmement bien, ça amène énormément de dividendes et de revenus chez des personnes extrêmement fortunées pour lesquelles l'argent n'est pas un souci. Donc, il n'y a pas que la clientèle aspirationnelle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Aujourd'hui, les maisons s'en occupent beaucoup parce qu'elles ne peuvent pas parier uniquement sur la croissance du chiffre d'affaires des VIC. Elles ont besoin aussi de cette clientèle aspirationnelle, de cette autre clientèle pour pouvoir se développer. Donc, on voit que comme elles ne peuvent pas baisser les prix de leurs produits iconiques, elles développent des nouveaux produits qui sont souvent plus abordables pour pouvoir renouer le contact avec cette clientèle aspirationnelle. Et en même temps, pour séduire les VIC, elles développent des produits encore plus exceptionnels à des prix absolument stratosphériques, mais qui sont le témoin de savoir-faire d'exception.
Oui, alors c'est ça justement que je trouve particulièrement intéressant, mais là on parle notamment d'une clientèle peut-être occidentale, mais est-ce que vous voyez des mouvements différents, parce que vous parlez du fait que vous êtes aussi présent un petit peu partout, et par exemple sur Décousu j'avais reçu celle qui était en charge, donc Marie Blanchet en charge des vintage au printemps à New York, et on parlait en fait aussi du rapport très différent de la clientèle américaine contre la clientèle française pour énormément de raisons que je n'ai pas développées ici. Mais ça, c'est encore un marché qui est comparable, on va dire. Pour des marchés soit complètement nouveaux, soit qui ont des rapports complètement différents à la consommation, qu'est-ce qu'on peut analyser? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a des... Peut-être que la scène occidentale, européenne, est peut-être en train de s'affaisser et qu'il y a autre chose qu'il faut aller voir ou pas?
Non, je ne partage pas exactement ce point de vue, notamment parce que l'Espagne est un marché qui va très bien, l'Italie va plutôt pas mal en termes de consommation aussi, l'Europe du Sud en général se porte plutôt pas mal en ce moment. Les États-Unis sont un marché qui continue d'aller plutôt bien aussi sur de très nombreuses catégories produits. Donc les marchés traditionnels du luxe vont bien. La France ne va pas si mal que ça, notamment parce qu'il y a beaucoup de touristes américains. Et que le dollar étant très haut, c'est très cheap pour eux de s'acheter en Europe des produits de luxe. Donc, on voit bien que la vieille Europe et les États-Unis, marchés un peu traditionnels du luxe, sont des marchés qui se portent encore plutôt pas mal et qui résistent plutôt bien, en général. En Chine, c'est vrai. On a vu cette luxury fatigue, on a vu disparaître en gros la moitié de la des consommateurs de luxe en Chine. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de ne plus vouloir acheter des t-shirts à 450 euros? Franchement, on les achetait déjà plus en France ou aux États-Unis, donc que leur consommation se normalise sur des standards plutôt internationaux, ça n'est pas une très grande surprise. Il y a des nouveaux marchés qui existent, vous en avez parlé, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, jusqu'à une période très récente, évidemment, allait extrêmement bien également. Et on peut aussi se dire que quand la guerre va s'arrêter en Iran, le revenge shopping au Moyen-Orient va être un truc absolument historique dont on continuera de se souvenir pendant longtemps.
Peut-être l'équivalent de ce qu'on a vu après la Seconde Guerre mondiale. Hein.
Peut-être. En tous les cas, voilà, donc l'aspiration, les marques de luxe font toujours rêver. Les produits de joaillerie, encore une fois, se portent extrêmement bien. Tous les produits expérientiels, on n'a jamais vendu autant de yachts, par exemple, se portent extrêmement bien. Et le luxe d'expérience, c'est-à-dire l'hôtellerie, l'hospitalité, enfin, on le voit avec le développement du voyage sous toutes ses formes, que ce soit en train d'exception, en bateau merveilleux ou en voiture de folie, se porte également extrêmement bien. Donc, voilà, la situation... Effectivement, il y a des tendances de fond. Hein. On passe le luxe de produits est en baisse alors que le luxe d'expérience est plutôt en hausse. On a des géographies variables. On a des catégories produits qui se portent plus ou moins bien. Mais donc, il y a des vraies transitions. Il y a de vrais mouvements qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Je pense que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements en même temps à gérer. Et que... des enjeux de stratégie de marque, des enjeux de production, des enjeux de RSE, des enjeux de réorientation du catalogue produit, des enjeux de pricing. Enfin, il y a vraiment peu de... des enjeux d'approvisionnement qui sont extrêmement importants. La logistique. Il y a vraiment en ce moment beaucoup de choses à gérer quand on est à la tête d'une maison ou quand on travaille dans une maison. Et de combiner tout ça, de coordonner tout ça, c'est sans doute le défi le plus important.
Mais alors justement, parce que ce qui est particulièrement complexe, effectivement, c'est l'interconnexion de tout un tas d'éléments qui parfois se superposent, parfois se contredisent. Il y a une dimension qui est aussi évidemment essentielle, c'est la question de la surconsommation et de la surproduction. Parce qu'on est dans un marché qui ne cesse de s'accroître, qui est sur bien des points saturé aussi. Il faut le dire que cette fatigue du luxe, elle n'est pas uniquement indexée sur l'explosion des prix, elle est aussi sur un marché qui est inondé sans cesse. On voit bien le rythme est absolument effréné, etc. Donc, c'est une question qui est forcément très compliquée et un peu effrayante dans le sens où elle suppose de repenser profondément le paradigme tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais est-ce que... aujourd'hui, un acteur qui veut vraiment sortir son épingle du jeu, un acteur émergent qui veut définir les prochaines années du luxe, est-ce qu'il pourrait se constituer complètement en dehors de ce qui existe aujourd'hui ? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il y a tellement de problématiques complexes en fait aujourd'hui qu'il faudrait, entre guillemets, réparer pour une maison déjà énorme, que pour un acteur qui n'a en fait qu'à mettre en place conformément à un nouveau paradigme, par exemple, faire du sourcing beaucoup plus ciblé avec des bases de données beaucoup mieux gérées, avoir des matières beaucoup plus responsables, intégrer directement toutes les questions de cycle de vie, de traçabilité, qui sont aujourd'hui des questions réglementaires, mais également le fait d'avoir une valeur circulaire sur l'intégralité du cycle de vie du produit. Donc arrêter de penser la dimension purement jetable par rapport aux lois AGEC, etc., où c'est un réel problème pour certains groupes aujourd'hui d'avoir des meilleures façons de prévoir en fait leur production. Donc finalement, est-ce que les groupes aujourd'hui qui existent vont réussir à s'adapter à ces énormes changements ou est-ce que c'est un temps propice à l'émergence de complètement nouveaux acteurs?
Alors, sur les enjeux de RSE, j'ai l'impression que les groupes de marques très haut de gamme ont fait énormément d'efforts ces dernières années et qu'elles maîtrisent beaucoup mieux leur production, leur stock, qu'elles ont pour certaines beaucoup réduit la taille de leur collection, rationalisé leur offre et que... le travail n'est évidemment pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a eu déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits. Par ailleurs, pour les produits de luxe, vous savez qu'il y a ce concept de durabilité extrinsèque, émotionnelle, qui fait qu'on a plutôt tendance à garder un produit qu'on a acheté parce qu'il est cher, parce que cher à notre cœur, mais cher à notre porte-monnaie aussi, à le porter plus longtemps. Et donc, on n'est pas du tout dans cette logique de produits jetables que l'on connaît par ailleurs dans l'ultra fast fashion, par exemple, donc, où les pratiques sont évidemment extrêmement différentes. Après, pour ce qui est d'émerger dans ce contexte, moi, j'ai toujours cru que ce n'est pas en respectant les règles qu'on émerge. Donc, il faut avoir quelque chose de nouveau à dire, quelque chose de nouveau à apporter, un modèle économique sans doute un peu différent, parce que vous avez raison. La très forte crise du wholesale, la disparition d'un certain nombre d'acteurs qu'ils soient physiques ou digitaux, de la distribution, fait que les petites marques émergentes qui ont longtemps été dépendantes du wholesale doivent trouver une autre manière d'émerger et faire de l'argent autrement qu'en vendant des produits à des gens qui vont les distribuer. Et ça, c'est quand même un vrai défi de trouver sa nouvelle manière de faire. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est absolument indispensable de réfléchir à tout cela.
Et alors, justement, je rebondis sur ma précédente question, c'est est-ce que, du coup, peut-être effectivement, avec cette crise du wholesale, on n'assisterait pas à une possibilité actuellement de faire complètement émerger des nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 90, LVMH et les grands groupes ont complètement reconstitué la façon de penser l'industrie du luxe. Et j'ai tendance à croire, mais je me trompe peut-être, qu'aujourd'hui, on est un peu dans les prémices d'une nouvelle restructuration du secteur. Et je me demande si finalement, par exemple, les nouveaux acteurs qui vont émerger, de par aussi un rapport au client qui est plus direct, parce qu'on parle évidemment de l'expérientiel qui augmente, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que les gens ont moins envie d'être purement dans la consommation. Et c'est quelque chose qui peut complètement entrer en phase dans un monde où finalement, alors qu'on est de plus en plus dans le digital, les nouvelles technologies, le luxe va être justement dans le contraste, c'est-à-dire le fait de se dire qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien humain qui va pouvoir perdurer au-delà de l'acte d'achat. Et donc, ça veut dire sortir de l'ultra-visibilité réseaux sociaux, donc arrêter de confondre engagement sur les réseaux et engagement client, parce que ce n'est pas la même chose. On peut parler, par exemple, de Jeanne Friot, qui est énormément suivie, mais peu achetée. Et donc se dire finalement sortir de l'ultra-visibilité, sortir de l'ultra-production, sortir de l'omniprésence du luxe qu'on a vu ces derniers temps, que Sophie Abria a notamment analysé, etc., pour revenir à quelque chose de plus expérientiel, plus exceptionnel, plus ciblé autour du client, et donc du coup de répondre à la fois à ces problématiques de sourcing, ces problématiques aussi de projection d'achat, mais aussi du coup de meilleure rentabilité, de meilleure résilience, et potentiellement aussi d'engager des nouveaux business models, puisque sur la dimension purement circulaire, ça suppose des services et donc d'être plus proche du client. Et tout ça, en fait, c'est un changement profond comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, est-ce que selon vous, on est peut-être à l'aune d'un tout nouveau secteur du luxe qui va pouvoir émerger maintenant, alors que ces dernières années, il était un peu impossible de faire les choses différemment.
Je l'espère. Ce modèle que vous pointez du doigt, il existe déjà dans le premium. Je pense à Atelier Tufri, par exemple, qui est une formidable marque basée dans les Cévennes, à 2 heures en voiture au nord de Nîmes. C'est la 5e génération. Ils partaient de la toile de Nîmes, et ils font aujourd'hui du jean, mais bien plus que cela, avec une conscience extrêmement forte, un contrôle de leurs approvisionnements très pointu. C'est une marque qui vend essentiellement sur Internet, qui vient d'ouvrir une boutique à Paris qui cartonne. C'est une marque qui a une très forte croissance et qui fait les choses de manière très éthique, de manière extrêmement contrôlée. Donc, on voit bien que pour une partie des consommateurs, il y a effectivement ce modèle-là, ce modèle éthique, ce modèle très responsable qui est plébiscité. Après, je constate aussi que dans le secteur du luxe, si les groupes ont fait beaucoup d'efforts sur le plan de la RSE, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus difficile aujourd'hui pour une marque d'émerger. Et que la valeur, elle est souvent captée par des très très gros acteurs, pas par des acteurs émergents. On a vu, il y a une quinzaine d'années, émerger toute une grappe, toute une nouvelle génération de designers à Paris. Vous avez parlé de Jeanne Friot, de Marine Serre, mais à l'époque, il y avait aussi Études Studio, il y avait Ami, il y avait Jacques Mus, etc., qui sont tous à peu près apparus au même moment. Beaucoup de maisons ont fait un très beau chemin pendant toutes ces années. D'ailleurs, elles existent encore toutes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais certaines connaissent aussi des difficultés parce que les modèles doivent être effectivement réinventés aujourd'hui. Mais les modèles de développement de ces différentes maisons ont toujours été très différents. Le modèle de développement de Jacquemus n'a rien à voir avec le modèle de développement de Ami. Ami s'est développé beaucoup grâce à un réseau de boutiques. Jacquemus s'est développé avec du digital et avec du wholesale. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de recette unique. Et que c'est à chacun de trouver sa voie en fonction de ses clients, de son projet, de ses valeurs, pour pouvoir émerger de la meilleure façon.
Oui. Ben, c'est justement là que ça devient particulièrement intéressant d'être capable de se dire comment je fais pour construire quelque chose qui soit non pas du psittacisme, dire la répétition, le fait de répéter de façon bête et méchante ce qui a été fait avant comme une règle de toute éternité, mais de se dire en fait comment sentir les signaux faibles pour les appliquer. Et ça, c'est particulièrement intéressant, d'autant plus à une époque où justement il y a une espèce d'agglomération d'énormément d'éléments très complexes qui s'alimentent, etc., les uns les autres. Et donc, justement, il y a un autre élément qui est aussi central, c'est finalement cette crise dont on parle beaucoup, donc vous me direz ce que vous en pensez vous, mais de la valeur du luxe. On parle beaucoup du fait qu'aujourd'hui il y a une fatigue, que la création s'est endormie, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est une petite musique, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette crise de la valeur du luxe, de cette crise de la qualité perçue face à justement des prix qui explosent? Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de sens aujourd'hui dans le luxe vraiment, ou selon vous c'est une vue de l'esprit?
Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul luxe et qu'il y a des luxes différents et que cette réponse, elle ne peut pas se faire de manière uniforme. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on entend ce discours assez régulièrement. Et moi, ce que je constate aussi, c'est une mobilisation de savoir-faire d'exception comme jamais.
Justement, est-ce que ça ne serait pas une réponse pour essayer de pallier ce problème?
Si, peut-être. Mais en même temps, y a beaucoup, ça dépend des maisons, mais il y a quand même beaucoup de maisons, je pense à Hermès, je pense à Chanel et à d'autres, qui se sont rapprochés des savoir-faire depuis une éternité et qui, effectivement, depuis déjà 5 ans, 6 ans, investissent beaucoup chez des sous-traitants, chez des fabricants, ce qui n'était pas le cas précédemment, pour pouvoir s'assurer d'un approvisionnement de qualité et faire en sorte que cet approvisionnement d'exception, ces matières d'exception, puissent toujours être là pour elles. Donc, ce sens-là donné au travail, à la main, au travail de la main, qui est très soutenu par la Fondation Bettencourt-Schueller également, il est absolument essentiel dans nos métiers. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, remettre en avant le produit, redonner de la valeur ajoutée au produit quand on est une marque comme Premium, ou de luxe, c'est très important parce que Zara fait déjà très bien les choses, parce que COS fait déjà très bien les choses. Donc il s'agit de faire encore mieux.
Oui, mais la question, c'est de dire qu'à l'origine, c'est quand même ça, le luxe. Pourquoi est-ce que ces dernières années, on en est peut-être parti? Et là, j'en veux pour preuve ce qui s'est passé l'année dernière avec la crise du Made in Italy. Vraiment, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne voulait rien dire pour beaucoup de questions de sous-traitants, de non-déclaration, d'immigrés travaillant, etc. Le cuir d'Italie qui, pour autant, avait une très belle image, etc. Aussi la délocalisation de beaucoup de savoir-faire, la perte de qualité aussi, très simplement. Là, je parle avec beaucoup d'experts du vintage qui disent que, très sincèrement, aujourd'hui, les vêtements, quand ils les trouvent, des vêtements qui ont 50, 60 ans, ils sont d'une qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui, même sur des robes à 4000 euros dans des marques de luxe. Donc, il y a aussi cette question de se dire pourquoi on en est parti de cette dimension de qualité alors que le prix a augmenté. Et finalement, aujourd'hui, comment fait-on si on veut réintroduire ça d'un point de vue d'une marque parce que ça coûte de l'argent, que c'est très cher aussi de revenir à des produits, parce que là, on parle, évidemment, là, on parle vêtements, mais il y a beaucoup d'autres produits, mais sur le vêtement, ça coûte extrêmement cher de produire avec une très bonne qualité, puisqu'il y a beaucoup de coûts humains, coûts matières, etc. Et une marque qui veut croître en faisant un meilleur rapport qualité-prix, aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas, entre guillemets, en train de payer les conséquences de ces actes de délocalisation et de perte de qualité précédents. Comment on fait aujourd'hui pour répondre à ça ?
On ne peut pas non plus en vouloir aux marques de luxe d'avoir voulu proposer des produits à des gens qui les achetaient et qui étaient très heureux de les acheter et qui étaient de plus en plus heureux de les acheter. Donc on ne peut pas d'un côté dire on perd la clientèle aspirationnelle et c'est dommage, et en même temps dire mais pourquoi est-ce qu'ils se sont dévoyés en faisant des produits plus accessibles. Donc
Plus accessible, mais donc quand même le prix n'a cessé d'augmenter, c'est-à-dire que la qualité a baissé mais le prix a augmenté.
Oui, mais la demande n'a cessé d'augmenter aussi. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on augmentait les prix aussi parce qu'on n'avait pas les capacités de production. Si on ne les avait pas augmentées, on ne pouvait pas développer les produits parce qu'il n'y en avait pas. Ça aurait été un carnage. Enfin, on le voit déjà avec Hermès, par exemple, et d'autres maisons qui organisent des listes d'attente, enfin, font patienter les gens, etc. Donc, et c'est aussi un problème, et c'est condamné en disant « mais c'est scandaleux que je ne puisse pas acheter ». Mais en fait, pendant 10 ans, ça a été à l'échelle de l'industrie que ce système-là s'est mis en place. Donc, c'est normal, je me mets à la place de ces maisons, elles ont une capacité de production, elles ne peuvent pas délivrer plus que ce qu'elles délivrent aujourd'hui, les gens se l'arrachent à n'importe quel prix. Donc ils ont essayé de faire baisser la demande en augmentant les prix, ce qui est logique parce qu'ils ne pouvaient pas de toutes les façons produire plus. Donc, est-ce qu'on est allé trop loin ? Est-ce que certaines maisons sont allées trop loin, encore une fois ? Sans doute. C'est certain. Est-ce que toutes les maisons sont allées trop loin ? Non.
Bien sûr, pas de généralité ici.
Exactement. Est-ce que certaines se sont dévoyées ? Oui. Est-ce que le triomphe du merch pendant quelques années a dévoyé certaines maisons ? Oui. Est-ce qu'il est temps de reprendre en main la fabrication, la logistique, la créativité, tous les facteurs de désirabilité ? Évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on observe que les maisons, bien sûr, sont très responsables. Elles sont folles de rage pour certaines d'entre elles que les producteurs italiens leur aient caché ce système de sous-traitants numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et falsifié pour certains d'entre eux les rapports qui leur étaient donnés. La conséquence de tout cela, c'est pour certaines maisons un rapatriement en France de la production. Donc on a certains sous-traitants du luxe qui vont plutôt pas mal en ce moment, parce qu'ils voient arriver des marques qui étaient parties et qui reviennent aujourd'hui, parce qu'en France, on a des conditions sociales de fabrication qui sont bien meilleures que dans d'autres pays, et des contrôles qui sont plus fréquents que dans d'autres pays.
Alors là, ça, c'est d'autres problèmes au niveau du prix, mais bon, on a pas mal déjà traité ce sujet. Là, il y a quelque chose sur lequel je voudrais aussi rebondir, c'est forcément... Il y a un élément absolument central aujourd'hui, et d'ailleurs c'est l'épisode qui sortira après où on va parler de l'usage de l'intelligence artificielle pour la communication de marque, etc. Mais l'importance et l'omniprésence du digital aujourd'hui dans le luxe, je veux dire, c'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs années maintenant que c'est absolument central, mais c'est vrai que ça va de plus en plus vite là en termes de production de contenu. Et donc, comme je parlais tout à l'heure de cet effet de contraste, comme toujours, c'est-à-dire que parce qu'il y a de plus en plus de digital, va prendre de la rareté, ce qui est de plus en plus matériel et lié à la main. Et donc, c'est là que ça devient intéressant de parler de l'artisanat, etc. Mais le client, au final, quel est son rapport ? Vous pouvez peut-être le voir dans la consommation. Quel est son rapport avec cette volonté de mettre du sens dans le produit matériel plutôt que dans l'image digitale? C'est-à-dire que, je prends Jacquemus parce que Jacquemus est vraiment un exemple parfait pour ça, c'est-à-dire que c'est une maison qui est sa meilleure influenceuse en elle-même, qui a une image parfaite, extrêmement bien pensée, qui touche tout le monde, etc. Mais c'est vrai que la qualité du produit a été souvent critiquée chez Jacquemus. Et donc aujourd'hui, puisque ça a fait florès pendant extrêmement longtemps, est-ce qu'aujourd'hui, justement, malgré l'IA, malgré les réseaux sociaux, etc., le client a une volonté de retourner vers une vraie qualité de produit, ou en fait, c'est juste une vue de l'esprit, et finalement, ce qui compte, ça reste la communication, l'image de marque, ou est-ce que vraiment, aujourd'hui, on va à quelque chose de plus sensoriel, matériel et intime ?
D'une manière générale, je pense que les clients ne lésinent plus sur la qualité. C'est certain qu'ils ont bien conscience que le prix d'une maison n'est pas le même que d'une autre, donc on ne peut pas avoir la même qualité chez l'un que chez l'autre, mais que quand on achète un produit cher, il faut quand même que ce soit un produit avec une qualité minimum.
Est-ce que l'éducation à la qualité, elle est là ? Parce que est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, en fait ?
Ah bah ça j'en sais rien, moi j'ai l'impression qu'on le constate parce qu'effectivement certaines maisons ont été décriées, elles ont depuis fait beaucoup beaucoup d'efforts justement pour changer de fournisseur et avoir des réalisations et des produits de bien meilleure qualité, donc c'est super. Est-ce que la culture des clients est aussi bonne qu'elle l'était il y a quelques années sur les produits ? La réponse est non. Mais est-ce que c'est de la faute des maisons ? Est-ce que c'est de la faute des clients qui ne s'y seront pas du tout intéressés pendant des années ?
C'est la faute de tout le monde, là. C'est tout le monde, des personnes. C'est global.
Donc, c'est global, mais en même temps, savoir la différence entre un twill et un crêpe, ce n'est pas si compliqué que ça. Google existe, donc on pourrait aussi s'y intéresser. Ce sujet-là n'a pas intéressé les communautés du luxe pendant des années, qui se sont concentrées sur des questions d'image, de notoriété, d'égérie, et que le rêve venait de là et ne venait pas effectivement du produit. Moi, j'ai effectivement l'impression qu'il y a un petit retour en ce moment, qu'on se réintéresse au produit, à la qualité des tissus, à la qualité de la confection, et que ce sont des sujets de conversation qui sont extrêmement intéressants. Les métiers manuels sont aujourd'hui bien mieux valorisés qu'ils ne l'étaient par le passé. Les maisons ont fait beaucoup de travail là-dessus. Elles ont ouvert leurs ateliers. On peut visiter des ateliers aujourd'hui. Il y a plein de manifestations qui font découvrir des métiers manuels, industriels, et il y a plein de besoins dans l'industrie. Ces métiers sont souvent mieux payés que beaucoup d'autres métiers quand on rentre dans la carrière, et surtout on peut y faire des carrières absolument merveilleuses. Donc ce travail de revalorisation de la technique, de la qualité, du produit, de la matière, des gestes, il est en cours et on ne peut que s'en réjouir.
Alors ça c'est aussi un sujet qui est très complexe aussi en réalité, parce que ça suppose aussi beaucoup d'autres problématiques, dans le sens où aujourd'hui cette volonté de qualité, elle est beaucoup plus, on va dire, intellectualisée que vraiment incarnée dans la matière. C'est-à-dire que le client sait qu'il veut une meilleure qualité, mais en fait il ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Donc le problème, c'est que cette qualité, elle coûte vraiment très cher, et qu'in fine, le client, est-ce qu'il est vraiment capable de faire la différence ? Donc il y a aussi tout un profond, enfin une question de d'acculturation, etc., qui est aussi un réel sujet, mais là c'est presque au niveau d'un ministère de l'éducation, donc c'est un autre sujet. Mais forcément, on ne peut pas passer outre ces questions, les questions d'intelligence artificielle. J'imagine que vos clients vont beaucoup vous parler de ça, parce que c'est un formidable outil, et ça change aussi beaucoup de choses. Évidemment, il y a... Alors, on pourrait crier, oh là là, mon Dieu, catastrophe, catastrophe, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Mais ça, c'est comme toujours, hein, avec l'invention de la machine à coudre, etc., c'est toujours la même chose. Mais au-delà de ça, c'est aussi une formidable opportunité. Donc là, j'aimerais parler moins du côté risque sur la créativité, etc. Voilà. Oui, il y a des métiers qui vont être affectés par ça. Oui, le marketing, oui, l'image, tout ça, c'est compliqué pour ce secteur en ce moment, notamment les étudiants qui sont en train de se former sur ces questions-là. Mais pour une marque aujourd'hui qui va devoir faire face à des énormes problématiques de coûts en termes de restructuration, on a parlé des questions de RSE, parce que là, même si on ne s'y intéresse pas, les réglementations, elles existent, hein, elles arrivent, avec Omnibus qui a été reporté, mais qui arrive quand même. Les questions aussi de savoir-faire, qualité, etc., ça coûte vraiment très cher de se retourner vers une meilleure qualité. Et est-ce que l'intelligence artificielle va permettre, selon vous, de lever de la valeur, ou en tout cas faire un retour sur investissement plus pertinent sur certains éléments essentiels, et aussi quelles opportunités de façon générale ça peut occasionner pour une marque aujourd'hui ?
Alors, il est certain que la rentabilité des marques de mode a baissé ces 10 dernières années, et que cette rentabilité baissant, les dirigeants des maisons cherchent aujourd'hui à faire des économies et donc à rendre plus profitables leurs entreprises. Et ils pensent que certains outils d'intelligence artificielle, à juste titre, vont les aider à faire des économies, à être plus efficaces, à être plus performants. Donc là, on n'est pas du tout sur des questions de désirabilité, on est sur des questions de performance. réduire les coûts de siège, faire en sorte effectivement que les packshots des produits, les visuels e-commerce puissent être réalisés en IA, ça va très vite, les traductions sont réalisées en IA, les fiches produits sont réalisées en IA. Donc il y a plein de sources d'économies qui peuvent être réalisées, mais au-delà, les prévisions des ventes peuvent être faites pas en IA, une partie du merch peut être réalisée grâce à l'IA. Donc on a plein, tout le support juridique, le support RH peut être aussi piloté par IA. Donc on a plein de sources d'économies qui peuvent être faites. Donc c'est plutôt à la fois, c'est une bonne nouvelle pour la rentabilité des marques qui vont pouvoir peut-être retrouver un petit peu d'oxygène pour pouvoir investir sur d'autres sujets. C'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi, parce que ça veut dire qu'il y a plein de métiers qui vont être extrêmement impactés et que l'IA pourra remplacer un certain nombre de collaborateurs. Voilà. Donc après, au-delà de ce que l'on vient de se dire là, sur les fonctions support, l'utilisation de l'IA, elle est assez générale aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Mais au-delà des fonctions support, les positions des entreprises sont très différentes. On a des entreprises qui interdisent à leurs équipes créatives d'utiliser l'IA. Au contraire, on a des entreprises qui promeuvent absolument l'utilisation de l'intelligence artificielle pour permettre des créations encore plus exceptionnelles. Donc on a plein de sources, de positions différentes, de positions éthiques différentes vis-à-vis de l'IA dans les entreprises. Et on est qu'aux prémices de cette révolution, donc c'est un peu normal que les choses ne soient pas stabilisées. Elles ne vont pas l'être tout de suite. Il y a deux sujets qui sont extrêmement importants également et qui font que certaines maisons sont plus frileuses que d'autres. Le premier, c'est celui de la propriété intellectuelle. Sur quoi on se base, les sources d'inspiration, à qui appartiennent les droits, comment ne pas faire aussi se faire piller ses propres créations une fois qu'elles sont passées dans l'IA. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le coût économique, bien sûr, de cette transition. On est de plus en plus lié à des abonnements, à des agents IA, etc. Qu'est-ce qui se passe si demain, elles décident de doubler, de tripler leurs tarifs, alors qu'on est complètement dépendant dans nos process de ces outils? Évidemment, ce sont des très grosses questions et aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses.
De toute façon, ils vont bien finir par mettre des pubs. Mais il y a aussi une autre question qui là est, on va dire, plus inquiétante par rapport au secteur du luxe, c'est sur la dimension de la créativité. Alors après, il ne faut pas se leurrer, parce que par exemple, Nelly Rodi est bien un exemple de ça, c'est-à-dire qu'avoir des recommandations d'orientation créative, ça ne date pas d'hier dans le secteur du luxe, vis-à-vis de la réponse par rapport à l'analyse sur les signaux forts et faibles du marché et des consommateurs. Mais là, on va aller dans quelque chose d'encore plus rapide, c'est-à-dire qu'il suffit, entre guillemets, d'avoir une base de données avec tous les comportements consommateurs vis-à-vis d'un produit. On rentre ça, on dit fais-moi une collection, et hop, une IA peut de façon très marketing faire les produits qui vont être les produits un peu niveau 1 de ce qui va être offert en termes de créativité.
Oui, c'est sans doute vrai, mais quand on est dans une maison de luxe, on n'attend pas que ça.
Mais justement.
Voilà. Donc, on ne vend pas la même collection dans une maison de luxe que dans une maison de high street. Et l'IA, pour le moment, elle peut faire une collection efficace, mais elle ne fait pas une collection créative. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a toujours besoin de cette créativité, de cette vision, de gens qui portent cette vision, de gens qui l'expliquent, de gens qui l'incarnent, de gens qui pensent le coup d'après. Ça, c'est toujours absolument essentiel. Et c'est ça qui fait une partie de la valeur du luxe aujourd'hui.
Mais au-delà d'être toujours essentiel, je pense que surtout, en fait, on va assister à une espèce d'âge d'or de la créativité 2.0. C'est-à-dire que, parce que justement ailleurs, maintenant, on le sait, c'est-à-dire que on est arrivé quand même à un certain, ça va tellement vite, mais on est arrivé à un certain degré de conscience du fait que, maintenant, une image peut tout à fait être un deepfake ou une IA, Donc on est rentré dans l'ère du soupçon, un peu comme vous pouvez dire Nathalie Sarraute par rapport au digital, où maintenant on se dit, clairement, ça, je sais que c'est de l'IA, mais voilà, ça fait partie de mon quotidien. Par contre, du coup, ce qui va être intéressant, c'est que, à contrario, on sait où aller regarder pour justement sortir de cette espèce de chape de plomb de l'IA. Ça va être les créatifs. Et donc, par exemple, ce qui s'est passé avec le site internet de Hermès, où on a vu, tout le monde en a parlé, parce qu'ils avaient engagé vraiment des artistes, etc. Ça a fait, il y a eu un énorme succès de tout ça. Et ben, je pense que justement, le luxe, parce que ça, cette notion aussi de savoir-faire, de main, etc., qui ne peut pas être falsifiée, il va y avoir cette dimension de se dire, ben, en fait, dans tout le reste, la créativité, pour des basiques, etc., on sait qu'on n'en a pas tellement besoin. En revanche, il y a cette espèce de contraste magnifique que va représenter le luxe dans cette possibilité d'avoir une créativité beaucoup plus désirable, parce que justement ailleurs on sait que la norme ça devient l'IA et le fait de générer des choses. Donc au-delà du fait que c'est indispensable, etc., je pense surtout qu'on va aller vers une désirabilité et une compréhension de la créativité encore plus forte. Et est-ce que ça c'est quelque chose que vous analysez d'un point de vue vraiment les grandes tendances sur la création et les conseils aux créatifs?
Oui, bien sûr. Nous sommes des grands apôtres de la création. Hein. On est né dans la créativité, donc c'est évidemment quelque chose auquel on croit. On héberge ici une galerie d'art, un des trois espaces parisiens de la galerie de Rouillon. On organise des vernissages. On a des rapports avec les créatifs, qu'ils soient des secteurs de la mode, du design, de l'art contemporain, qui sont extrêmement forts, parce qu'on sait bien que ces créatifs expriment à leur manière des mouvements de la société, des valeurs qui sont extrêmement inspirantes et qu'ils le font avec des images, avec des objets, avec des mots que le commun des mortels et une émotion qui n'arrive pas à leur cheville. Donc de se frotter à cette créativité-là, à cette manière de voir l'avenir de manière extrêmement sensible, bah, c'est ce qui fait le sel de la vie et le sel de l'humanité. Donc je ne peux que redire que nous, on n'a jamais recommandé à aucune maison de supprimer leur staff pour faire des collections avec de l'IA, c'est hors de question. On n'a jamais recommandé à une maison de s'inspirer et de faire du copier-coller en demandant à l'IA ce qui allait se passer s'ils arrivent, ce qui est toujours un peu compliqué, mais dans les 6 mois qui viennent, et de refaire la même chose que ce que leurs voisins faisaient. Non, au contraire, il faut que les maisons cultivent leur singularité absolument, et une partie de cette singularité, elle passe par le point de vue créatif.
Tout à fait. Mais alors du coup, comment, dans votre métier, vous accompagnez les créatifs pour essayer quand même aussi de correspondre à un certain zeitgeist?
Nous, on est très... nous ne pensons pas qu'il faut s'opposer aux évolutions technologiques. Donc, ça fait 4 ans qu'on fait des expérimentations avec l'intelligence artificielle ici chez Nelly Rodi. Mais on le fait pour faire encore mieux, pour faire en sorte que les créas puissent encore mieux faire leur travail, puissent... œuvrer de manière encore plus puissante. Et c'est ça qui nous intéresse. S'ils n'utilisent pas les outils, c'est pas grave, hein, on ne leur en veut pas. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça dépend des marques, ça dépend des personnalités, ça dépend des esthétiques, ça dépend de plein de choses. Voilà. Donc, mais en tous les cas, ici, on est ouvert à cette innovation et à cette vision de l'avenir. Voilà. Après, dans les maisons, encore une fois, les studios sont très... il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des DA qui disent « ah non, jamais de la vie », il y en a d'autres qui disent « au contraire, c'est génial ». L'important, c'est de le faire dans un cadre éthique, dans un cadre sécurisé, et c'est déjà beaucoup.
Là, ce que je pensais, en fait, c'était davantage la question de se dire « comment est-ce qu'on laisse un créatif libre ?» parce oui. que c'est important, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la mode est une industrie. Le luxe est une industrie, donc il faut aussi rencontrer une attente consommateur.
Oui, bien sûr, mais ça, avec ou sans IA, ça se fait. Oui,
mais ma question, c'est ça, c'est vous, comment vous faites?
C'est l'outil, la plateforme de marque, la plateforme de stratégie créative, tous ces outils que nous développons ici chez Nelly Rodi pour les maisons, ils sont absolument nécessaires parce que justement,
ils définissent
le cadre.
Comment on arbitre justement entre liberté? En fait, Pour tout vous dire, c'est aussi une grosse problématique qu'on a vis-à-vis des questions de RSE, puisque souvent les équipes nous disent non mais le studio, etc., doit interpréter les visions créatives, ce qu'on veut que le directeur artistique soit libre de tout. Le problème, c'est qu'en fait, on met des rustines après coup, alors que si on implémentait au cœur de la création des problématiques de durabilité, etc., ça changerait tout. Mais d'un point de vue pareil, sur la désirabilité du client, comment on fait pour mettre en avant cette créativité qui est essentiel au luxe, et en même temps, c'est une industrie, donc il faut répondre à des attentes consommateurs. Comment
ben,
vous...
On organise les poids dans les collections, dans l'offre, on se dit, ben, on met 15% de la collection, il y a une liberté totale avec des produits exceptionnels qui vont donner le ton de la collection, on fait 30% de reconduit, entre les deux, on fait au contraire un travail de message sur la collection, mais un peu descendu pour que l'on puisse aussi faire du chiffre d'affaires et que ces produits soient vendus. Donc, tout est une question d'équilibre. Et chaque maison a un équilibre différent. Il y a des maisons qui ont une créativité extrême dans leur ADN, donc qui peuvent se permettre beaucoup plus de liberté, de renouvellement, parce que justement, les clients attendent cette liberté, ce renouvellement, plus régulièrement que dans d'autres.
On arrive malheureusement à la fin de ces échanges, mais j'aurais tellement de questions à vous poser, pareil, sur l'évolution du retail, de l'expérience client, etc. Mais j'aimerais là finir en simplement vous laissant un peu cette parole libre en disant, mais finalement, vous, quels sont un peu les grands signaux que vous voyez, qu'est-ce qui vous occupe et vous paraît vraiment particulièrement pertinent pour la suite dans le secteur et qui va vraiment, selon vous, être un peu l'élément clé sur lequel il faut se questionner?
Moi, j'ai l'impression que la créativité va être vraiment au cœur des débats et que cette créativité-là, elle va nécessiter de la part des maisons un très grand pas, mais aussi de la part des créatifs un très grand pas. On a été très atone pendant un certain nombre d'années. On maîtrise maintenant très bien les savoir-faire. C'est une très bonne nouvelle. Mais il y a eu une espèce de standardisation du style qui s'est opérée à un niveau finalement assez bas. Et le sel de la vie, c'est pas ça. Donc je crois qu'on va assister assez rapidement à un retour de balancier. Et il va falloir trouver des personnalités qui vont réussir à comprendre ça et à faire pas des choses barrées, mais des choses extrêmement créatives et de qualité. Et ça va demander un travail absolument considérable. Parce qu'il va falloir trouver des personnalités marquantes qui connaissent notre métier. Donc, pas simplement des personnalités marquantes, pas simplement des directeurs artistiques qui vont avoir une vision créative, mais aussi des gens qui vont réussir à la descendre dans un produit de qualité. Faire une robe, faire un sac, faire un joli collier, prendre en compte le bien-aller du vêtement, les aspects de RSE, prendre en compte, voilà. Et ce travail-là qui nécessite une compréhension accrue de comment tombe un tissu, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tissu et pas un autre, ça va être un travail absolument considérable. Et donc le sujet de la production, le sujet de passer de l'idée au prototype et du prototype à l'industrialisation va revenir au centre du débat dans beaucoup, beaucoup de maisons.
Et donc, c'est là où c'est parfait, ça permet de boucler ce que je disais par rapport à la dimension de, selon moi, c'est quand même, alors pas une période de crise, mais de transition profonde des modèles, et il va falloir repenser, faire presque une tabula rasa et revenir à finalement qu'est-ce que c'est que le luxe indépendamment de ce qui s'est passé ces dernières années et comment le refondre finalement et de voir de nouveaux acteurs émerger. Donc j'espère ça avec grand plaisir. Mais écoutez, merci en tout cas beaucoup pour cet échange.
Merci mille fois.
Et est-ce que pour les auditeurs qui voudraient retrouver des infos sur Nelly Rodi, voir un peu votre actualité, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
On nous retrouve sur Instagram, on nous retrouve sur LinkedIn, on nous retrouve sur nellyrodi.com où on partage pas mal d'articles sur les différentes études et les points de vue que nous avons. On nous retrouve bien sûr pas simplement chez nous, on organise beaucoup de conférences. Nelly Rodi, ici dans cet hôtel Crobon du Bourg, qui est absolument magnifique, organise beaucoup d'événements. Donc on nous retrouve aussi sur la trentaine d'événements que nous organisons chaque année chez Nelly Rodi et que nous organisons bien sûr dans nos clients, chez nos clients. Et puis on nous retrouve dans la presse, on nous retrouve aussi chez vous, chez d'autres créateurs de contenu qui sont très friands bien sûr des actualités de Nelly Rodi et qui nous continuons à les inspirer. On est très très fiers de ça.
Bah écoutez, en tout cas, moi j'en profite allègrement, donc je vous remercie d'avoir pris ce temps-là. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et un grand merci évidemment à Pierre-François pour la générosité de son regard, sa lucidité et sa capacité à mettre des mots sur une époque que beaucoup ressentent sans toujours réussir à la formuler. Parce qu'au fond, cet épisode parlait évidemment du luxe et de la mode, mais aussi plus largement de notre rapport au désir, au temps, à la création et à la manière dont les industries créatives essaient aujourd'hui de rester pertinentes dans un monde devenu extraordinairement mouvant. Si la conversation vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à aller soutenir Décousu, très simplement, en partageant l'épisode sur votre profil Instagram, avec le compte Instagram de Décousu, Décousu Podcast, en laissant une note et un commentaire, et également en parlant autour de vous. Allez, moi je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode.